France Musique.
Merci Philippe Cassard. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle note du traducteur.
1, 2, 3. Pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui flirte avec les sons, les bruits, les matières, les textures, les psss. Nouveau mois, nouveau thème. Nous effleurerons pendant le mois de mars la grande aventure du bruit. Je dis effleurer car on ne peut décemment pas faire le tour d'une telle question sans y passer sa vie. Et c'est un peu ce qu'il s'est passé pour notre invité d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir le compositeur François Bell, qui viendra nous parler de sa propre aventure du bruit au sein du GRM, le groupe de recherche musicale, ou comment le bruit est devenu un son au travers des musiques électroacoustiques et acousmatiques. Et comme chaque samedi, un zoom sur une œuvre de la fin du XXe siècle et un son totalement dépecé. Le cri du patchwork, thème numéro 7, épisode numéro 1, séquence numéro 1.
Mais on, que tel chalivali ne fut fait de ribaud de four, comme l'en fait par les carrefours de la ville, parmi les rues. Déguisés sont de grande manière. Les uns ont ceux d'avant derrière. Liens avoués tantins à vache, cousus sur cuisse et sinache. Et au-dessus, grosse sonnette aux sonnères et aux chières clarettes, les autres tabours des cymbales et grands instruments hors des salles. Liens moutraient son cul au vent, les autres rompaient un avant. L'un s'appuie connaître vite, l'autre jetouait le seul au fils. Or, il avait gens trop parables pour chanter la chanson liable.
Du bruit. Le charivari, comme il est décrit dans le roman de Fauvel au XIVe siècle, est un moment de grand bruit, de tumulte, fait pour déranger. On parle de bruit pour tout son qui dérange, qui fait mal, ou qui tout simplement ne plaît pas. Au lendemain de la création du Sacre du Printemps, le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Élysées, le critique Beauchot écrit ces quelques lignes. Stravinsky a travaillé à rapprocher sa musique du bruit. Pour cela, il s'est appliqué à détruire toute impression de tonalité, un travail éminemment amusical. Alors là, j'ai une question. Le bruit est-il amusical ? Avec cet interlude au début de son opéra « Le Nez », Dimitri Shostakovitch écrit une année avant l'ionisation de Varèse un morceau entièrement consacré aux percussions. Comme un fracas, un charivari d'instruments fait pour faire du bruit. Ou plutôt que l'on autorise depuis peu à refaire du bruit. Encore faut-il apprivoiser notre peur du bruit. Ce que Luigi Russolo, en 1916, dans son Art des bruits, avait déjà identifié, c'était la complexité d'un bruit, sa richesse face à un simple son de violon, par exemple. En créant ces instruments à bruit, les intonarumori, Luigi Russolo ouvre le siècle du bruit industriel musical.
Thank you.
100 ans après, le bruit est devenu une catégorie esthétique internationale. La noise, qui porte bien son nom, réunit sous ses matières extrêmes les musiciens nés de l'électronique et du rock garage, comme les compositeurs de musique électroacoustique. La noise, ce n'est plus du bruit, c'est du son. À l'instar de la signature sonore du japonais Merzbow, nom de scène de Masami Akita. Ou lorsque le bruit, en faisant mal, devient beau.
Eh, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. La sirène. Non, mon cher Debussy, pas ces sirènes-là. Mais celles qui, au départ, n'ont pas été prévues pour être utilisées dans la musique. Celle qui annonce un danger, une attaque, qui attire l'attention, un peu comme les sirènes d'Homère en fait, chantant dans l'oreille d'Ulysse. La sirène, inventée à la toute fin du XVIIIe siècle, est constituée d'un disque perforé que l'on fait tourner grâce à une manivelle. Et c'est l'air passant dans ces perforations qui crée la hauteur de la note. Et parce que l'on peut modifier la vitesse de rotation, on obtient ce glissando caractéristique de la sirène. Eh bien, lorsque l'on parle de sirène utilisée en musique, on associe immédiatement le nom d'Edgar Varèse, qui l'utilise dès 1918 dans Amérique. Mais comme je n'ai pas arrêté depuis le début de l'année de citer ou diffuser du Varèse, je vais réaliser une chronique sur la sirène sans passer du Edgar Varèse. Chiche. Prenons par exemple la Kammermusik numéro 1 de Paul Hindemith. Rien à voir avec du Edgar Varèse. Cette sirène, et elle n'arrive qu'à la toute fin de cette Kammermusik de Paul Hindemith en 1922. Et quand on ne sait pas qu'elle est prévue, la surprise est d'autant plus grande. Car la sirène est un instrument discret dans un orchestre. C'est une simple boîte avec une manivelle, ou aujourd'hui avec un petit bouton poussoir. La même année, Arseni Avramov donne un énorme concert le 7 novembre 1922 à Bakou, en Azerbaïdjan. Dans sa symphonie des sirènes industrielles, il réunit des klaxons de bus, des canons, des cornes de brume de la flotte soviétique installée en mer Caspienne, des mitraillettes et un chœur entonnant la Marseillaise et l'Internationale. Et bien entendu, des sirènes. Célébrant le 5e anniversaire de la Révolution d'octobre de 1917, ce concert gigantesque n'a jamais été enregistré. Mais en voici une reconstitution. Attention, petit bijou d'avant-garde de 1922. faire jouer toute une flotte de bateaux avec leurs cornes de brume. Le rêve. On peut aussi les enregistrer et les monter dans une composition sur bande. C'est sans doute beaucoup plus simple. Raymond Murray Schaeffer recompose ainsi un paysage sonore de Vancouver, où la symphonie des sirènes se déroule comme une partition, entre train et bateau. Le son de la sirène ou de la corne de brume est devenu au fil du temps un sample, un échantillon hyper prisé par toutes sortes de musiques, des plus expérimentales aux plus commerciales. Dans le disco, ici avec Brooklyn Express. Dans la house la plus basique, comme celle d'Armand Van Helden en 1994. The Witch Doctor. 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 Dans le hip-hop et le rap, avec CNC Music Factory. CNC has just left the building. CNC has just left the building. CNC has just left the building. I tell you where I'm standing, you can't see much, CNC, but from the sound of my voice, just try to picture me. Ce qui est frappant, c'est que cette sirène qui entre par la petite porte dans la musique de création au début du XXe siècle, considérée alors comme un bruit extérieur, voire dérangeant, est devenue monnaie courante pour nos oreilles actuelles. La sirène, sur un dance floor, est associée à un élan, une énergie, un break permettant de soulever les foules. En parlant de foules, si vous confiez des sirènes à bouche, les fameuses sirènes Acme, à 88 musiciens, disposé dans un espace incluant le public, cela donne une sensation étrange de nuage de glissando. Et quand on parle de nuage de son, on pense à Yanis Xenakis. Dans Terretector de 1966, il place le public en rond, mélangé aux musiciens, comme si tout l'espace était devenu un disque de sirène tournant sur lui-même. Des flammes de son, comme le décrit Xenakis. La matière quasiment électronique de la sirène, qui est tout simplement mécanique, permet d'imaginer des collages électroacoustiques les plus bruités possibles. Comme le fait Mark Wingate dans Clankar und Melody de 1996. Comme le décrit le compositeur, c'est un jour, dans la vie d'un citoyen, dans une métropole américaine. En Parlant de sirènes de police, c'est fou le nombre de sirènes utilisées en ouverture de générique de séries de télé. Petit patchwork pour Télévore des années 80. De l'inspecteur Gadget à l'homme de fer, en passant par Starsky et Hutch, la sirène fait partie de notre environnement sonore musical, et ce, depuis la tendre enfance. À l'opposé de cette utilisation dans la fiction, plusieurs compositeurs font appel à la sirène pour nous parler de notre histoire. Dans ces Different Trains, Steve Reich convoque l'instrument hurleur pour évoquer l'Europe de la guerre 39-45. La sirène redevient alors une sirène.
1940. On my birthday. On my birthday.
Combien de sirènes pour parler de l'histoire, de la guerre? Cette empreinte sonore qui ne quitte plus lorsqu'on l'a vécue. La sirène, de l'objet annonçant le danger et du souvenir douloureux qu'elle peut laisser, est devenue au fil du XXe siècle un objet musical léger et surutilisé. Nous n'avons pas la même expérience du bruit, qu'il dérange ou non, qu'il fasse peur ou non.
I was in second grade.
Vous voyez qu'on y arrive, hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. François Bell, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous propose de commencer tout de suite avec un court extrait de votre musique, L'Ange Feu.
Voyons.
François Bell, vous avez dit juste avant l'extrait, voyons. Est-ce que l'on peut voir cette musique que vous avez composée ici en 1972?
Il faudra la voir à travers le rideau de l'écoute, effectivement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai proposé comme entrée ces fragments reconnaissables, mais c'est leur dislocation qui compte, c'est leur effritement. Ce sont des musiques froissées.
Musique froissée. Musique brisée aussi. Est-ce brisée, que c'est une volonté de déconstruction?
Déchirée, oui, comme les affiches lacérées.
Est-ce que c'est faire de ces éléments qu'on a l'impression de reconnaître alors qu'on ne les reconnaît pas? Est-ce que c'est en faire du bruit, justement?
En tout cas, c'est quelque chose qui choque, qui pique, et qui en même temps, parce qu'en même temps qu'on reconnaît, on voit surtout le geste de lacération. Je pense que c'est ça qui, il y a donc une protestation.
En parlant de protestation, voici un cri match nul de François Bell. Match nul de François Bell. François Bell, ces injections de cris dans un espace sonore, on a l'impression d'être dans une provocation justement de l'écoute.
Et oui, le bruit, c'est ce qui se passe quand quelque chose ne va pas. Et j'ai essayé dans cette pièce de mettre ensemble des événements absolument différents, mais qui convergent sur le conflit. L'ambiance qu'on entend, figurez-vous, elle vient d'un match de catch. Les petits cris de bébé très ténus qui viennent picoter et qui sont vraiment presque imperceptibles attirent l'attention d'un seul coup. C'est le premier cri de la naissance. C'est finalement c'est ce qui ne va pas pour un bébé. Il était bien et le voilà dans l'air libre et donc dans la détresse et il se plaint déjà. Voilà. Et le petit son et le gros son sont en équilibre. C'est pourquoi j'appelle ça match nul.
Il n'y a pas de gagnant, en fait, entre les bruits.
Oui, c'est ça.
Lorsque vous travaillez avec des bruits comme ceux-ci qui ont été enregistrés sur le terrain, on pourrait dire, puisque vous êtes parti avec un micro à enregistrer un match ou bien piocher des sons de notre quotidien, est-ce que vous pensez en structure avant de l'écrire ou bien est-ce que c'est l'expérience de la manipulation de ces bruits qui crée la forme?
Oui, évidemment que c'est le second. Tous ceux qui sont venus à la musique expérimentale avec des structures dans la tête se sont cassés la figure.
Ne donnez pas de nom.
Oui, c'était l'erreur à ne pas commettre. C'est un reportage, la musique acousmatique. On interroge, par le biais de l'écoute, on interroge l'inconnu, on interroge la manière dont on écoute les sons.
Parce que la musique acousmatique, avant d'être une production de sons, c'est avant tout une perception de sons.
C'est ça, c'est une perception-production, c'est-à-dire que la production est contrôlée par la perception. Elle n'est justifiée que par la perception.
Donc le compositeur est devenu un percepteur, celui qui perçoit et non pas celui qui donne à percevoir.
C'est-à-dire que le compositeur est pour la première fois de l'histoire humaine, est devenu, a comme matériau le total sonore. Toute la musique depuis qu'elle existe, j'ai envie de citer cette phrase de Schaeffer, « Toute civilisation musicale opère sur le bruit en en dégageant le son ». Toutes les civilisations musicales, toutes les musiques, utilisent au départ le bruit et le récupèrent après dans une formule qui fait en général appel à un concept cosmique et à une espérance de pouvoir, parce que finalement la musique cherche le pouvoir d'émouvoir, mais aussi le pouvoir politique. La musique est très ambiguë à cet égard. Et donc ce pouvoir, il vient du fait que nous attachons un certain prix, une certaine valeur à certaines perceptions qui sont, lorsqu'elles sont accordées, nous émeuvent très profondément et très inexplicablement.
Le total sonore, c'est le moment où on va prendre en compte que tout son peut faire partie de notre langage, de notre vocabulaire, pour pouvoir faire ce qu'on appelle musique.
Le total sonore, c'est le fait qu'on écoute de 40 Hz à 20 000, c'est-à-dire c'est les capacités de l'oreille, et on met la musique, on installe la musique dans ce cadre-là, et elle n'y avait jamais été, puisque la musique se servait en général d'instruments pauvres, ne délivrant que des factures très très particulières de sons, notamment des sons minces, octaviants en général, et utilisant plutôt la question des intervalles, et non pas du total.
Vous avez cité Pierre Schaeffer, là on va écouter un extrait de sa collaboration avec Pierre Henry, Symphonie pour un homme seul, 1950, une sorte de date anniversaire finalement de la naissance des bruits.
Oui, c'est les trois coups qui s'ouvrent sur une nouvelle scène.
Symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Ici, on touche justement à cette notions de collage de sons, de collage de bruits, qui n'ont rien à faire ensemble au départ. François Bell, cette idée de changer tout d'un coup notre manière de percevoir notre environnement sonore, on parlait de total sonore, est quelque chose dans laquelle vous avez plongé assez tôt dans votre carrière ?
Eh bien, je suis en effet, peut-être pas de ces instants précis où Pierre-Henri a rencontré Pierre Schaeffer et qui a été fulgurant, une rencontre extrêmement productive. Je suis venu presque tout de suite après et j'ai hérité évidemment de cet élan, mais qu'il fallait redéployer autrement parce qu'il y avait un problème d'ouverture. Il s'agissait que ce qui était exceptionnel puisse devenir peut-être une voie de la musique, c'est-à-dire un nouveau métier.
Parce que c'était choquant, parce que c'était provoquant à ce moment-là. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, toutes ces musiques-là qu'on écoute actuellement sont des musiques qui font partie de notre répertoire, de notre environnement sonore ? Ou est-ce que ça reste encore une musique choquante ?
Oui, ça reste une musique choquante. Ça choque surtout le milieu musical, d'ailleurs, qui va mettre beaucoup d'années à l'avaler. Parce qu'on peut faire de la musique sans musicien, ce qui est quand même, évidemment,
c'est assez vexant.
Le comble du comble. Mais c'est vrai que le cinéma, c'est produire aussi une histoire sans théâtre, et en mettant l'histoire, en général, à l'extérieur, c'est-à-dire pas seulement dans une pièce. Donc c'est au fond une musique d'extérieur. C'est une musique du total sonore et du total spatial. Voilà ce qui est le chantier, et pour lequel je pense que grand nombre d'artistes sont convoqués et feront des choses étonnantes dans l'avenir.
Lorsqu'on écoutait l'extrait Symphonie pour un homme seul, vous me disiez « Ah là on entend ça, là on entend ceci, on entend un piano ». Est-ce que la musique concrète, comme on l'a appelée, puis ensuite vos musiques acousmatiques, c'est une musique qui demande à ce que l'on reconnaisse les bruits qui sont utilisés ?
Elle ne demande rien. Rien ne demande rien. Simplement, dans la perception, y a un flot de sensations qui naissent. Et on est toujours partagé, on a toujours envie de reconnaître. Dès qu'on peut reconnaître quelque chose, évidemment, on saute dessus. Et évidemment, on s'aperçoit qu'on s'est trompé parce qu'on le reconnaît, mais en fait, c'est méconnaissable. Et c'est décontextualisé, c'est-à-dire que s'enchaîne à ce qu'on a reconnu, quelque chose qu'on reconnaît aussi, mais qui ne devrait pas être là. Alors, c'est déchirure d'espace, c'est déchirure de logique, c'est saut mentaux. Et qu'on est obligé de faire, qui est une joie de l'écoute, en fin de compte. Parce qu'on entend comment pense le compositeur, on entend comment pense l'artiste qui a provoqué ces jaillissements désordonnés, enfin désordonnés, pas si désordonnés que ça en a l'air en réalité. Il faut que ça ait l'air désordonné, mais il faut beaucoup d'ordre pour faire du désordre.
Dans cette idée de la joie du son, la joie du compositeur, on va écouter un court extrait de Pierre-Henri, Variation pour une porte et un soupir, lorsque la porte ne devient plus une porte. Pour une porte et un soupir, le passage qui s'appelle Étirement de Pierre-Henri, François Bell. Là, on a vraiment l'impression d'entendre une voix, c'est-à-dire qu'on entend des portes qui chantent finalement.
On entend surtout des étirements qui sont de nature instrumentale. Mmh. Et d'ailleurs, cette porte est jouée.
Elle devient un instrument de musique.
Pierre a passé des heures et des heures et des heures à manipuler cette porte en essayant de trouver comment la tenir, comment la manier, comment on apprendrait à jouer une phrase de violoncelle. Et bien sûr, je ne parle pas des heures d'écoute après pour le trier. Ce qui permet de faire une remarque, cette musique d'objets qui semble trouvée, qui semble venue du hasard et de la provocation, on voit bien que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est un travail très très délicat d'entomologiste, c'est un travail de repérage, c'est un travail aussi de domination du geste pour pouvoir lui faire obtenir des tracés. Et l'accumulation de ce travail crée forcément un sentiment musical, ce qui fait penser à cette phrase de Victor Hugo, tout bruit écouté longtemps devient une voix. C'est l'idée que quand on écoute longtemps, patiemment, avec beaucoup d'attention quelque chose, une mutation s'opère. Et cette chose vous parle. Elle devient une voix qui vous accompagne, qui chante parfois.
C'est un peu tout l'inverse de notre émission, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'écoute que des courts passages, mais c'est l'occasion.
Oui, mais en même temps, on prend rendez-vous. Et ceux qui aiment ça iront aux sources.
Exactement. Et c'est le cas, par exemple, on va écouter un petit extrait de votre... C'est un long cycle, finalement, Hérosphère, avec ici Tremblement de terre très doux, qui s'ouvre sur une porte, mais dans laquelle on a plein de sons que, en tant qu'écoutant, auditeur, on essaie de reconnaître, mais qui, à la fois, deviennent des chants, deviennent vraiment des voix. Et d'ailleurs, il y a de la voix à l'intérieur.
Il y a tout ça, et y compris même un son d'ascenseur, c'est-à-dire un son vertical, si je puis dire.
Entre l'horizontalité des billes qui roulent et la verticalité de l'ascenseur, voici voilà. Tremblement de terre très doux. Court extrait de Tremblement de terre très doux de François Bell, ou comment le bruit finalement pourrait être infime, petit. François Bell, c'est aussi une de vos questions, c'est-à-dire le bruit n'est pas simplement cri, n'est pas simplement dérangeant.
Il est toujours dérangeant, mais il n'est pas forcément violent. Il peut être aussi très inquiétant, très, très tamisé. Il peut irrupter ou au contraire vous inquiéter par le silence.
L'inquiétude du silence. On est inquiet face à un son qu'on n'arrive pas à identifier. On est inquiet face au silence qui nous crée une angoisse. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous jouez, ce rapport de perception de l'inquiétude ?
Bien sûr, je pense que on ne peut pas faire de l'acousmatique sans interroger son inquiétude. Et je pense tout simplement que c'est une musique d'inquiétude. C'est une musique, un calmant en même temps, en même temps qu'un excitant. Parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est quelque chose d'informel que l'on manipule, c'est-à-dire qu'on emploie les mains pour appuyer, pour étirer, pour retenir ou pour pousser. Et puis, cette main produit une forme, un peu comme le potier qui appuie sur la motte de glaise et puis qui tourne avec le pied. Et cette motte informe, cette bouillie plutôt dégoûtante, tout d'un coup, naît un vase parfait, avec une finesse de la terre lourde. On arrive à faire surgir une porcelaine du Japon absolument aussi légère qu'un souffle d'air. Alors voilà le travail, le travail de la matière pour en obtenir de la perception, d'une perception musicale.
Même si la matière est diverse, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs sources, c'est le cas de votre journal, composé en 1971, où là vous avez pioché en fait dans ce que vous écoutiez à ce moment-là, une sorte de témoignage de la matière que vous aviez à cette époque dans votre tête.
On peut en effet voir ça comme ça, oui, c'est un témoin.
Thank you.
journal de François Bell, une sorte de journal de 1971 avec des sons électroniques, des sons empruntés. On reconnaît un petit peu de loin Jimi Hendrix. Mais finalement, Jimi Hendrix n'est plus Jimi Hendrix. On parlait de contextualisation tout à l'heure.
Il y a tout. Il y a les événements de mai, il y a du Zappa, il y a du Mozart, il y a tout ce que j'ai écouté à ce moment-là.
François Bell, un compositeur de musique acousmatique et avant tout un creuset de différents sons qu'il a pu capter. Comment il fait pour choisir? Est-ce qu'il se crée une histoire? Est-ce qu'il entend dans ses bruits justement une trame?
Il y a un projet toujours quand on fait un travail. L'idée là, c'était, il faut le remettre dans un contexte qui s'appelle l'expérience acoustique. J'essayais des catégories d'écoute. Et cet extrait tombe dans la deuxième des catégories. Il y a cinq catégories d'écoute pour moi. L'écoute d'alerte, l'écoute de désir, et le journal se trouve dans l'écoute de désir. Il y a l'écoute de déchiffrement. Il y a l'écoute de résonance et l'écoute de signifiance.
Bon, c'est différents états.
Différents états de réceptivité ou d'attention même, et de critères de perception. Et là, nous sommes dans l'écoute de désir.
On va écouter une de vos pièces les plus récentes, Deviner, devenir, donc de 2014. Mmh. On va passer à une pièce faite de petits bruits, parce que le bruit qu'on appelle, que j'ai pu faire écouter depuis le début de cette émission, c'est souvent un bruit assez gênant par rapport à son volume sonore. Mmh. D'aller chercher le bruit, le petit bruit, est-ce que ça permet de rentrer encore plus dans le détail et de provoquer une attente, une inquiétude encore plus?
Ce sont les deux façons de surprendre. Si je veux surprendre ou si je ne suis pas content, j'ai deux façons de faire. Soit je crie, je tape et je fais comme un enfant, j'essaye de faire peur. Et l'autre façon, c'est tout d'un coup, je fais un grand silence. Mmh. Si je fais un grand silence et si je travaille avec des phénomènes imperceptibles, je fais peut-être encore plus peur. Je suis un enfant, moi, de la nature sauvage africaine. Et j'ai appris, quand j'étais petit, à faire très attention au léger suintement d'un serpent qui passe ou d'un scorpion qui tombe du plafond et qui ne fait pas beaucoup de bruit en tombant, mais c'est très révélateur. Et donc les petits sons, pour moi, sont aussi inquiétants que les autres. Mais il y a aussi le fait que des petits sons sont rassurants et que les sons rassurants, on en a besoin également.
Deviner, devenir, de 2014, composé par François Bell. François Bell, dans cette pièce-là, on est toujours proche de l'infime, de l'intime aussi. Est-ce que c'est se rapprocher de votre manière de penser en écoutant cette pièce-là?
On voudrait toujours, comme artiste, atteindre l'impalpable, ce qui est très difficile à définir, la couleur, le grain le plus fin, etc. Oui, le geste le plus délicat. C'est curieux de parler de ça dans une émission consacrée au bruit, c'est-à-dire à ce qui est grossier, ce qui fait du tapage, ce qui veut absolument protester. Je crois que cette antithèse est à sa place. Ce sont les deux façons pour, je crois, un artiste de vivre. Il faut qu'il proteste et il faut en même temps qu'il soit délicat.
Cette délicatesse, on la retrouve dans des pièces comme Grandeur Nature, Son, Vitesse, Lumière, où des sons sont filtrés. Alors la notion de filtre dans la matière que vous travaillez est quelque chose d'essentiel pour ne pas reconnaître nécessairement le bruit, mais surtout pour lui donner une âme, finalement.
Oui, le déplacer, le contraindre. Le filtrage est inhérent à l'expression. Par exemple, lorsqu'un instrumentiste presse plus ou moins sa corde ou installe une sourdine, finalement comprime son son, le son se trouve un peu étranglé. Et cet étranglement est porteur d'émotions extraordinaires. Ce n'est pas simplement une modification du son, c'est immédiatement une transposition vers une sorte d'effort qui rend encore plus attentif, qui aiguise finalement l'écoute. On retrouve ça dans les procédés d'électroacoustique, évidemment.
Grandeur nature, son vitesse, lumière de François Bell. François Bell, tout à l'heure, vous parliez de cette envie de toucher l'impalpable avec votre musique. Et pourtant, on a parlé de musique concrète à une époque. Cette musique qui est finalement palpable. Est-ce que là, on donne une forme à des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ou complètement imperceptibles?
Oui, mais ce n'est pas contradictoire. Musique concrète veut surtout dire musique qui nous montre la vie des sons, la vie que l'on repère par la forme acoustique des sons. Ce que nos oreilles nous offrent à entendre, c'est une organisation du son, mais une organisation de vie aussi, et qui nous renvoie à notre vie intérieure, c'est-à-dire qui nourrit notre vie intérieure. Ça me fait penser à quelques lignes de Deleuze qui parlent très bien de ça. Et il dit, par exemple, que c'est certain que la musique traverse profondément le corps. Elle nous met, par exemple, une oreille dans le ventre, dans les poumons. Elle s'y connaît en ondes et en nervosité. Elle rend sonores les forces insonores. Et parfois, ce sont les mêmes, dit-il, le temps qui est insonore et invisible, et le temps qu'il faut rendre sensible. Alors, je crois que nous sommes très à l'affût de toutes ces inflexions que le bruit porte. Et quand on a eu recours au bruit, c'était à la fois pour déranger, pour déplacer la scène musicale, mais en même temps pour y installer de la vie, parce qu'il est probable aussi que la musique dans ses formes connues, anciennes, devient formaliste et oublie de vivre. C'est pour ça que le cinéma a été si fort, parce que le théâtre oubliait la vie et devenait de la littérature sur une scène prononcée par des acteurs, alors que finalement le roman est plus fort. Et le cinéma, à la suite, a entraîné la radiogénie, la radiophonie et l'art acousmatique.
Est-ce que vous avez eu des sons qu'on pourrait dire fredonnants, c'est-à-dire des choses qui revenaient tout le temps dans votre carrière ?
Ah oui, je pense, oui. Ceux qui sont habitués à ma musique, certainement, doivent repérer un goût que j'ai pour des espèces de petites ritournelles de bruit qui chantent exactement comme, comme les oiseaux chantent.
Il y a une toupie qui revient fréquemment dans votre carrière.
Oui, c'est vrai, oui. C'est-à-dire le son spirale, c'est-à-dire aussi le temps qui n'est pas arrêté, le temps qui n'est pas un cercle, le temps qui fuit et qui à la fois monte et descend.
Donc voici, pour terminer, Spirale de François Bell, composé en 2012, où se pose cette question justement de ces spirales qui prennent corps, qui deviennent organiques.
Et qui sont issues d'une toupie, justement.
Court extrait de Spirale de François Bell et composé en 2012. Merci beaucoup François Bell d'avoir accepté l'invitation.
Bah, c'était un plaisir. Hein.
Avant tout pour moi, parce qu'on a évoqué quand même une toute petite parcelle de cette aventure du son et surtout cette aventure du bruit entamée avec Pierre Schaeffer et Pierre-Henri et avec vous. Donc on peut retrouver évidemment toute cette incommensurable création que vous avez eue depuis les années 60, en particulier dans un disque qui s'appelle Le Monde Sonore de François Bell, édité par l'INA GRM. Donc il faut savoir que vous avez été directeur du GRM jusqu'en 1997, donc vous avez vu passer des bruitistes par milliers.
Oui, beaucoup.
Je conseille
beaucoup d'enfants.
Beaucoup d'enfants, exactement. Je conseille aussi aux auditeurs d'aller visiter votre site françoisbell.fr ainsi que le site de Magisson, qui sont des sites à plusieurs ressources, articles, pour comprendre vraiment ce que l'acousmatique nous a apporté dans notre perception de notre environnement sonore et de nos bruits.
Merci beaucoup.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
En France, la parole bruit a une connotation négative. Peut-être en parlant de musique, ça sera une connotation négative. Mais pour moi, si j'entends, comme l'autre fois dans le métro, musique de Wagner, alors c'est pour moi du bruit seulement. Alors ça dépend vraiment maintenant de la situation directe. Et, mais alors, c'est vrai, en sens historique, j'ai, dans ces pièces-là, commençant de 68, j'ai essayé de tirer l'attention sur toutes les autres choses qui se passent en faisant, en produisant un son.
Zoom sur Contra Cadence d'Helmut Lahrenmann. Lorsqu'il écrit Contra Cadence en 1970, Helmut Lahrenmann a déjà entamé une longue recherche sur les sons instrumentaux, les modes de jeu amplifiés pour chercher dans chaque instrument de l'orchestre une nouvelle manière de l'entendre. En rendant la création de ces sons visibles et physiques, Lahrenmann nous parle d'une réalité sonore,
d'une musique instrumentale devenue concrète.
Une fois, je l'appelais musique concrète, instrumentale. Ça veut dire qu'on entend des sons, pas seulement comme une chose dissonante ou consonante, mais le son est le résultat d'un process, de sa production. Et on entend une musique comme ça, normalement dans la vie quotidienne, si je fais comme ça. Je ne dis pas que c'est une fréquence, c'est un prix, je comprends ce que j'avais fait, ce que je viens d'avoir fait. Alors dans ce sens-là, cette musique a été assez provocante parce qu'on entend les choses tout à fait corporelles, des choses tout à fait comme évidemment physicales. Mais appliquer une telle manière de musique ou telle manière de matériel sonore sur un orchestre qui normalement est chargé de la tradition, alors ça fait une aventure spéciale.
Dans Contra Cadence, tout son est tenu pour ce qu'il est. Il n'y a plus de hiérarchie entre le dissonant et le consonant. On imagine alors très bien l'Iron Man trifouillant chaque instrument à la recherche de l'inouï. Un son raclé sur un violoncelle, un coup de pression d'archet, un geste soufflé dans un piano. Avec Contra Cadence, l'Iron Man réunit les sons qu'il a trouvés auparavant dans des œuvres de plus petite envergure, mais qui perdureront jusque dans Concertini, écrit en 2005.
Peut-être c'est la pièce qui peut illustrer l'étiquette que je dois porter quelquefois. Le musicien qui fait du bruit. Et vous avez dit qu'aucun instrument fait ses sons normaux. Et au fond, ce n'est pas vrai. Mais du moment quand on a un tel concept, une telle construction, la chose pour moi fascinante est que maintenant, le son traditionnel, il est là. Il n'est plus reconnaissable si facilement. On entend les choses pas seulement exotiques ou extraterritoriales, mais on entend les choses déjà familières d'une manière différente. C'est, si j'ai avec un avion, retourne et regarde ma maison dans laquelle j'ai vécu déjà depuis 40 ans, la maison est nouvelle de cette perspective. Thank you.
Écouter l'œuvre de la Runman, c'est obliger l'auditeur à changer de perspective sur les sons qu'il connaît déjà. C'est entrer dans l'instrument comme on entre dans un espace vierge de prérequis. Comme dans l'extrait que l'on vient d'entendre, où tout le monde tente de jouer des sons de güiro, cet instrument strié, utilisé dans la musique cubaine, mais qui n'a plus rien de cubain dans la tête de la Runman. Le son retrouve sa virginité. Contra cadence, ce sont des situations sonores juxtaposées, entre matière soufflée, jeu de guiro généralisé, cluster tonitruant. Des bruits, diront certains. Des sons, diront d'autres. Une énergie, dirait la Runman, qui traverse sans cesse les instrumentistes. Tout un spectre de timbres, provoquant l'écoute, qui, aujourd'hui, reste une référence pour toute une génération de compositeurs, qui cherchent sans cesse l'étonnement de leur écoute. Fin de notre premier épisode du Cri du Patchwork sur le bruit. Merci à Perrine Mingui, à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui à la technique Nicolas de Pagraf. Merci à Flora Sternadel et Louis Gauin pour la recherche de sons et la construction du site internet. Nous avions aujourd'hui en spectateur muet Quentin et Tanguy Duchenois. Je recevrai la semaine prochaine Sophie Bissens, bruiteuse de son métier, avec qui nous allons continuer notre parcours dans les bruits. Et nous allons lui poser la question de comment elle entend la musique des bruits lorsqu'ils ne sont pas destinés à être musicaux, ou comment se dessine la distinction entre bruiteur et bruitiste. D'ici là, n'hésitez pas à vous ruer sur votre ordinateur pour réécouter les émissions qui ont précédé celle-ci, pour vous faire une idée de ce qu'est le patchwork, de ce qu'est le cri du patchwork. Chers écoutants,
si je fais 1, tagalam, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà. 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de passer la main à Arnaud Merlin et son All That Jazz. C'est à vous, Arnaud.